18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM pour une nouvelle émission ce mardi 28 mai. Vous êtes dans Time Sport comme chaque soir de 18h à 19h. Avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, ce soir on accueillera Guy Pina, président de Ice Time et organisateur du circuit de tennis ATC sur 30 quartiers de l'agglomération marseillaise. Restez donc connectés tout au long de l'émission avec le 01 53 48 3000 et le hashtag Time Sport sur la Twittosphère pour réagir avec vos consultants de ce soir. Au menu de cette émission, on verra la révolution pour le Milan AC la saison prochaine, mais aussi l'annonce qui est venue de la Canebière avec le nouvel entraîneur Villas-Boas. Du football africain ce soir au menu de ce Time Sport avec la Coupe de la CAF, les playoffs d'accession à la Première Ligue, sans oublier Roland Garros, Djokovic ou encore Nadal du côté de la Porte d'Auteuil. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir, pour m'accompagner dans cette émission, on aura Simon Balachev. Comment ça va, Simon ?
Buonanotte, buonanotte, tout va bien, Bilal, tout va très bien.
Guillaume Ascari est de la partie ce soir. Comment ça va, Guillaume ?
Comment ça va ? Salut les auditeurs, salut les auditrices de Beurre FM.
Kamel Haït Kaira, notre président. Comment ça va, le président ? Kamel ?
Bien, Bilal. Et bonsoir à nous, toutes nos auditrices et nos auditeurs de Beurre FM.
Mehdi Sefraoui, pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, tout nouveau dans la troupe de Time Sport. Comment ça va, Mehdi ? Mais nous aussi, Mehdi, et sans oublier Yacine Bouali. Comment ça va, Yacine ?
Buenas noches, buenas noches, buenas
noches. Ouais, mais il n'y a pas de problème.
Hein.
Ouais,
a,
mais bien sûr, c'est le droit. Alors, je suis habitué avec Simon.
Ouais,
ou avec Juan José Dorado. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de problème. Il peut le faire.
Espagnol.
Allez, on prend le chemin de la région transalpine.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et plus précisément, de la région de la Lombardie, quelle révolution pour le Milan AC. Simon, insiste-t-on à la décomposition d'un chef-d'œuvre en péril alors que le départ du directeur sportif peut-être se précise. Leonardo annoncé au retour plutôt au Paris Saint-Germain est quasiment acté. C'est désormais l'entraîneur Gennaro Gattuso que les médias italiens annoncent partant de l'autre côté des Alpes. On avance même une annonce groupée dans la journée de ce mercredi. Pourra-t-on revoir un jour le Milan AC conquérant d'un certain Silvio Berlusconi?
Eh bien justement, tu viens de le nommer.
Ouais.
Le Milan AC sort.
Il avait fait du bien avec Arrigo Sacchi.
Bah, il n'avait pas fait du bien. Il a créé la légende du Milan AC, ou plutôt continué la légende du Milan AC des années 60.
Il a créé Berlusco.
Ah bah, il y a eu les années 60 avant avec Riviera, tout ça. Bon. Mais voilà, le club sort de 30 ans de berlusconisme. Berlusconi, ce n'est pas seulement un président de club, c'était le président du pays, le président de tous les principaux médias italiens. C'était un immense personnage. Donc en Italie, le football, il fonctionne comme les cités-états de la Renaissance avec des condottieri. Il leur faut des personnages charismatiques comme ça, des grands leaders de guerre. Comme à la Juve, voilà. À la Juve, on a la famille Agnelli depuis très longtemps. Au Napoli, pourquoi le Napoli fait un très très bon travail avec des moyens bien moindres que la Juve? Il y a Laurenti depuis des années maintenant. La Roma, j'ai mis un maillot de la Roma, pas pour rien, parce que là c'est
très à propos.
Il y a eu une très belle période, si on regarde les 10 dernières années, il y a eu une très belle période avec la famille Sensi, beaucoup de stabilité. Où, c'est la Roma, donc c'est toujours un peu de manque de titres, parce que c'est la Roma, hein, ce côté un peu Poulidor. Mais il y a eu une grosse période à la fin des années 2000 avec la famille Sensi. Il y a eu une période de transition avec Benedetto, on a moins vu la Roma. Et là, il y a Palotta, qui est là depuis 2012, je crois, et qui refait du bon boulot. Et la Roma est de nouveau en Ligue des Champions, la Roma était en demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Voilà, là on a un exemple de stabilité. Le Milan, depuis que Berlusconi a passé la main, il y a eu un échec avec des Chinois et le rachat l'année dernière groupe Elliott, les Américains, et la mise en place de Scaloni. Là, eh bien, il leur faut de la stabilité. C'est là qu'on va voir. Et là, la perte de Leonardo annoncée sur le départ, ça peut être très, très, très dommageable.
Le président, Kamel, on t'écoute.
Non, je suis en partie d'accord avec, pour pas dire entièrement d'accord avec Simon. L'histoire de et moi je vais être général par rapport à pour les auditeurs et les auditrices et par rapport aux amoureux du football. L'histoire du Milan AC, c'est ce qui va arriver dans tous les clubs, la plupart des clubs européens, la plupart des clubs français. C'est quand vous êtes racheté par des personnes, des groupes, soit un groupe chinois, des fonds de pension américains qui connaissent rien, qui sont là que pour faire du business. C'est ce qui s'est passé avec le groupe chinois qui a racheté le Milan AC 740 millions. Après, ils connaissent pas le football, ils connaissent pas l'environnement. C'est comme si moi demain j'achetais un club chinois et j'y vais une fois tous les 6 mois. Donc déjà, je connais pas l'environnement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après, ils ont été rachetés par le groupe Elliott, c'est parce qu'ils ont pas honoré leur dette, le groupe chinois que le groupe Elliott avait. Mais ça va être pareil parce qu'il y aura pas de stabilité, parce que c'est un fonds de pension américain. Les fonds de pension, messieurs et mesdames, ce qui a acheté Bordeaux et compagnie, ils sont pas là pour de la stabilité, ils sont pas là pour durer, ils sont là pour faire de l'argent le plus rapidement possible pour vendre tous les actifs et se faire un maximum d'argent et partir. Donc moi, je tire mon chapeau à des Berlusconi, même à des Dreyfus à Marseille, etc. Parce que c'est des gens, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont donné leur corps et leur âme au club. Ils ont créé une stabilité parce que le but pour eux, c'était pas gagner de l'argent tout de suite, comme les fonds de pension ou les groupes chinois. Donc plus on va aller vers les fonds de pension et plus on va aller vers ces investisseurs-là qui sont là pour avoir des retours d'investissement à 2 chiffres, et plus les clubs ne vivront pas 1 an, 2 ans, 3 ans, comme ce qui va se passer à Bordeaux, etc. Donc, il y a un moment donné, il faut que, vraiment, comme tu l'as dit, pourquoi la Juve fonctionne ? C'est parce qu'il y a la famille Agnelli derrière. La famille Agnelli, c'est posé, comme tu l'as dit, c'est moi, etc. Ils sont pas là dans leur ambition de gagner de l'argent. La famille Agnelli préfère gagner des titres que de gagner de l'argent, à la limite. Mais c'est ce qui était passé avec Berlusconi. Mais là, avec le groupe Elliott, Ils ont récupéré le club parce que le groupe chinois leur devait de l'argent. Ils l'ont pas récupéré parce qu'ils aimaient le Milan AC, ils aimaient le football. Demain, quand ils vont trouver un autre acheteur, ils vont le revendre. Ils vont vendre tous les actifs. Si Leonardo part, c'est que vraiment il y a péril dans la demeure. Malheureusement pour le grand Milan AC.
Ces départs peuvent en quelque sorte justifier l'échec des Rossoneri à avoir la solidité nécessaire pour pouvoir se qualifier une fois de plus en Ligue des Champions. Mehdi.
Après, je voulais revenir sur Berlusconi, parce qu'il
a été
traité de mauvaise langue, mais le club a commencé à couler, il était encore là. C'est lui, dans les années 2012-2013, il a dit on n'achète plus de gros joueurs, on fait confiance aux jeunes, et on achète après avoir vendu. Et la fin du Milan, on peut dire, c'est quand Zlatan et Thiago Silva sont partis au PSG. Et avant, c'est le Milan qui allait chercher les gros joueurs au PSG. Leonardo, Wea.
Aussi.
Donc Berlusconi, il a un peu entamé cette fin. Après, il y a les Chinois qui sont venus en 2017. Ils ont quand même mis 230 millions d'euros au premier mercato. Ils ont acheté 11 joueurs. Ça fait quand même beaucoup pour.
Ils ont mis à crédit, ils sont endettés, c'est facile.
Quand vous dites
ils ont mis, on a l'impression qu'ils ont mis de leur poche. Ils ont pas mis de leur poche. Ils ont pris des oui, ils sont endettés. Et là, s'ils ont perdu le club, c'est parce que justement ils ont pas remboursé.
Les supporters du Milan, ils étaient contents que les Chinois ils s'endettent 230 millions pour l'été du mercato.
Mais supporters, c'est quoi les supporters? Ils connaissent. Tout le monde ne connaît pas le. Mais non, mais l'histoire du club, les supporters, j'en connais. Moi, des supporters, il y en a qui connaissent rien.
Après le. Américain en 2018, il a quand même fait venir Leonardo qui a fait venir Maldini. C'est quand même le club, Leonardo et Maldini.
On verra, c'est pour ça que je parle de stabilité. Maintenant, on va voir si Elliott arrive à construire sur la stabilité. Après tout,
je pense pas, vu
que les pays du Golfe arrivent à construire des choses sur la stabilité. On va pas parler du PSG, mais par exemple avec City. Voilà, c'est quelque chose qui City travaille très bien. Mais alors, pour revenir sur mes histoires de condottiere et la fin de Berlusconi, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai et parce que ça correspond avec la fin politique de Berlusconi et du coup la fin du pouvoir de Berlusconi, là où la Juve continue d'être puissante parce que la famille Agnelli continue d'être extrêmement puissante en Italie.
En plus, c'est le Milan qui a laissé Pirlo aller à la Juve, et ça avant c'était inimaginable. Ça
ouais, quand même, avant de donner la parole à Guillaume,
il y a une incohérence
pour terminer avec Yacine.
Tu ramènes Leonardo et Maldini, tu mets 2 shérifs dans la même ville pour être directeur sportif. Tu peux pas. Déjà, c'est une incohérence totale. Soit tu laisses Leonardo, ou soit tu laisses
Maldini. Mais c'est Leonardo qui a fait venir Maldini.
Mais normalement, tu devrais pas dire à Leonardo qu'il fasse venir Maldini. Qui va être directeur sportif? Ils sont battus pendant 2 ans, Maldini et Leonardo. Et ça nuit au club. Il y a un moment où il faut une cohérence politique. Il faut un projet. Il faut être intelligent. Il faut savoir dire non. Il faut pas dire oui pour faire venir les gens, pour les faire venir.
Guillaume,
moi je veux rajouter
un peu avec
par rapport à ce que vous dites sur le
Milan.
Il y a d'un côté les pertes financières qui sont accumulées, mais il y a aussi évidemment la sanction de l'UEFA, voilà, pour le fair play financier. Et tout ça, en plus du top 4, le fait que le Milan n'aille pas dans le top 4 cette année, ça a une influence, je pense, sur la décision de Gattuso. Gattuso, c'est quand même un emblème, quoi. Je veux dire, il était prévu jusqu'à 2021. Qui s'en aille maintenant, c'est quand même un symbole, suivi de Leonardo, etc. Je pense qu'il y a tout à mettre dans un
contexte
actuel, pas forcément qui est lié, comme vous dites, à Berlusconi ou quoi que ce soit. C'est le Milan tel qu'il est actuellement qui veut aller chercher des joueurs, des pépites, qu'ils achètent pas cher et après qu'ils peuvent transformer en bons joueurs. Ce projet-là n'a pas convaincu, n'a pas été une réussite. suite au, justement aux pertes financières importantes et au risque de sanctions voilà, pour le fair play financier par rapport à l'UEFA.
Ah, merci Guillaume. Oui,
tu vois, t'as raison, le projet, tu vois qu'il est mort, c'est qu'ils ont fait deux gros joueurs de ces dernières années, c'est Higuain et Bonucci. Un est resté un an, l'autre est resté six mois.
Non, il est revenu à la Juventus de Turin, chez la vieille dame. Yacine Bouali, on t'écoute concernant les Rossoneri.
Moi, j'ai écouté tout le monde.
À Lombardie, en feu.
Il va trancher.
On a l'impression, je ne veux pas trancher, mais on a l'impression que le football, ça tient uniquement à l'argent. Cette année, l'Ajax Amsterdam a donné la leçon à tout le monde. Donc, vous parlez des millions, des 400.
Mais bien sûr que ça tient à l'argent, Yacine. Ouais,
mais laisse-moi finir.
On va le laisser finir, t'inquiète pas, Guillaume.
Vous parlez du Milan, moi, j'y vais voir les matchs du Milan. J'ai été voir Dudelange Milan en Ligue Europa.
Ouais.
Et j'ai vu que Milan, c'est devenu un petit club, ce n'est plus un grand club. Donc, tout simplement, aujourd'hui, sa situation est tout à fait normale, tout à fait normale, parce qu'il y a une très, très mauvaise gestion, qu'on ne tient pas les hommes. Ce n'est pas l'argent, ce sont les hommes. Berlusconi.
Comment pas agir alors ?
C'est les deux.
Berlusconi au-delà.
Berlusconi, c'était un grand homme, Berlusconi.
Au-delà de son influence, au-delà de sa puissance. C'est un excellent gestionnaire.
Laisse-moi finir.
Milan a connu sa période la plus, on va dire, sa descente aux enfers avec la fin de Berlusconi, parce qu'il n'y a aucune personne depuis son départ qui est capable de prendre sa relève, tout simplement.
Ok, droit de réponse à Guillaume, on revient avec nos consultants aussi.
On va rectifier quelque chose quand on entend sur l'antenne de Beurre FM et sur
Sport. Rien à rectifier, tu dis ton avis. Non, mais
rien à rectifier. Parler tout le monde, on t'a laissé parler.
Le Milan AC tel qu'il est actuellement, c'est un petit club, il a fini 5e cette année au classement. Non, ce n'est pas un petit club par rapport à son palmarès, par rapport à ce qu'il a créé, le projet sportif. Et quand tu as Leonardo, quand tu as Gattuso, désolé, c'est pas un petit club. Et quand tu vois les joueurs qu'ils ont, c'est pas un petit club.
Le Milan, c'est, faut le rappeler.
Les grands clubs, ils vont jouer la finale de la Ligue des Champions dans deux semaines.
Alors, pas que les grands clubs.
Ouais.
C'est les grands clubs qui jouent.
Moi, on l'écoute. D'accord. Kamel.
Ce qui est important, et c'est ça, c'est au-delà de parler des millions et de parler tout ça du football, parce au-delà de ce qui est important, c'est Yacine, je te rejoins aussi sur ça, c'est que tu sois un grand club ou pas, c'est la politique que tu vas mettre en place.
Ce sont les hommes.
Elle est incompréhensible quelquefois.
Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Berlusconi, Milan, c'était Berlusconi. Il y avait un chef. Pourquoi il est parti, Gattuso? Parce qu'il sent qu'il y a personne, qu'il n'y a pas de capitaine dans le bateau. Et quand vous êtes, je le dis à ma petite échelle, parce que je suis président d'un club de
national. Mais tu es gouverneur d'un club aussi, voilà.
Si les coachs, ils sentent qu'il n'y a pas de politique cohérente,
ils quittent le navire.
Ils quittent le navire. C'est aussi simple que ça. Et Milan AC, il va devenir un petit club si ça continue comme
ça. Simon Balachev, on l'écoute.
Moi, je voulais juste dire que je n'ai jamais parlé d'argent. J'ai parlé d'influence.
Ouais.
Quand je parle de mes fameux leaders charismatiques,
les gens influents comme Simon, toujours de l'argent.
Pour moi, c'est de l'influence. On sait avec Berlusconi, c'était extrêmement important.
Après, on parle de l'Ajax, des petits
clubs, comme le dit Yacine.
C'est pas un petit club, l'Ajax.
Ouais, l'Ajax, non, mais pour Yacine,
qui va en faire
aujourd'hui,
en demi de Ligue des
Champions, ça a toujours été un grand club.
Ça arrive combien de fois, tous les combien de temps, ça?
Et puis surtout, parler de l'Ajax, c'est un contexte particulier. L'Ajax. Bah parce que l'Ajax a une histoire avec la formation,
bien sûr,
a une histoire incroyable de la formation tout à fait particulière que n'a pas forcément le Milan.
Et pourquoi le Milan ne pourrait pas avoir une politique de formation?
Les facilités qu'a eu l'Ajax parfois à renaître de ses cendres. On a cette année, on peut penser en 2004 avec une super génération avec les Sneijder, Van der Vaart, etc. C'est parce qu'ils ont dans leur ADN sportive cette capacité à former des grandes générations, et ça depuis les années 70.
Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas la solution pour les clubs comme
peut-être Milan? Bien sûr, il faut s'en inspirer.
Surtout qu'ils ont les moyens.
Tu parles d'ADN, mais justement, il y a Maldini qui a fait une interview en fin 2012, et il disait le problème du Milan, et il a tout à fait raison quand on voit aujourd'hui. Il disait avant avec Berlusconi, ok, on mettait de l'argent et tout, mais les joueurs qui venaient,
ils étaient encadrés
par des anciens joueurs.
Merci de le rappeler.
C'est ce que je dis.
Il y avait un socle de joueurs. Et ainsi de suite. Il a dit aujourd'hui, il n'y a plus personne au club. Quand il y a Pirlo qui part et qu'il n'y a personne pour dire à l'entraîneur non, c'est pas possible. Parce qu'en 2013, c'est le vice-président qui devient directeur sportif. Ouais. Et ça, c'est pas possible. Ouais. Chacun ses postes. Le président, on ne peut pas devenir directeur sportif.
Donc, il y a quelque part.
Donc, il y a un problème.
Peut-être sur la direction.
Hormis Baresi et Pirlo, il y avait quand même très peu de joueurs du Grand Milan formés. Et Maldini, bien sûr, formés au Milan.
Kamel.
Mais regardez juste, après, on va ramener à chez nous. Regardez les modèles économiques qu'il y a. Ils veulent tous faire comme Monaco. Et regardez Monaco, ils ont failli descendre en Ligue 2. Parce qu'il y a un moment donné, vous voulez vendre tous vos joueurs et avoir des pépites, c'est le loto. Il y a un moment donné, regardez là, ils ont vendu tous leurs joueurs. Ils ont failli descendre. Et ils ont essayé de rattraper. Ils ont plus de 73 joueurs en contrat. Mais c'est n'importe quoi.
Alors qu'en France, il faut
prendre. On est dans une équipe de football américain, quoi.
On voit le mode de gestion du Sco d'Angers avec des moyens qui sont.
Tu l'as suivi de près, le Sco d'Angers, en plus, hein.
On voit aujourd'hui le club, ça fait 4 ans ou 5
très,
ans.
Très très bien géré le Sco d'Angers.
Voilà, bien sûr. Donc, derrière, il y a M. Saïd Chaban qui est quelqu'un, même si on le met à la tête du Milan AC, je peux vous dire que dans un an.
Ah ouais, la pression ne sera pas trop forte comparée au Sco d'Angers, Yacine.
Lyon, oh là, c'est pas ma tasse de thé, mais regardez Lyon, s'ils sont aussi forts que ça depuis ces années, c'est parce qu'ils ont Olas, ils ont quelqu'un de charismatique qui sait garder la ligne, qui dit pas un jour blanc et le lendemain vert, donc à la limite c'est ça, et quand vous êtes...
Parce qu'ils ont un centre de formation aussi qui a créé des joueurs comme Ben Arfa,
Guillaume, je suis d'accord avec toi, mais le centre de formation c'est une politique du club, c'est aussi simple. Si Olas avait dit on fait comme Monaco, il n'y aurait pas eu de centre de formation à Lyon, c'est aussi simple que ça.
Tu vois par exemple, il y a des bons centres de formation, je prends l'exemple SBOV etc, qui a créé Mandanda, qui a créé plein... Voilà, il y a des bons centres de formation, mais derrière, avoir un bon centre de formation, c'est à mon avis à part de la direction.
C'est une politique de la direction et une politique sportive. C'est-à-dire, si tu as un super centre de formation, tes joueurs, tu les fais pas jouer en Ligue 1, un peu comme Paris Saint-Germain, et ben tous tes joueurs du centre de formation vont partir. Donc ça veut dire que c'est à un moment donné, le président doit dire ma ligne politique, c'est mon centre de formation, et tous les joueurs, comme l'a fait à Olas, à Lyon, qui est magnifique, parce que pour moi, ils ont le meilleur centre de formation européen, il dit mes joueurs,
incontestablement,
5-6 joueurs, ils doivent jouer en Ligue 1 ou s'entraîner avec la Ligue 1.
Et après, l'entraîneur, il
ferme sa bouche. Parce que c'est une politique cohérente. C'est tout.
Et après, ils vendent les joueurs, comme ça a été le cas pour Benzema. Donc, au final, le centre de formation te profite. C'est un bon centre de formation. Il te profite de 2 ans, 3 ans. Tous les 2-3 ans,
vont sortir des bons joueurs. Ça ne prend pas 2 ans.
Le but, c'est qu'on les garde dans notre championnat. Ça ne part dans un autre championnat.
C'est très bien que c'est dur de garder les joueurs en France.
C'est demain.
On n'arrive pas à les tenir. Il n'a pas tort.
Ou beaucoup de sociétés, ou beaucoup de capitaux comme les Qataris ont ramené au PSG. On va pouvoir garder tous les joueurs dans le championnat de France et tu vas ramener même les meilleurs joueurs d'ailleurs, comme le fait aujourd'hui le PSG, pour jouer dans le championnat de France.
Simon,
j'espère qu'ils t'entendent.
Les meilleurs joueurs du monde, éventuellement aujourd'hui, sont Neymar et Mbappé, sont dans le championnat de France.
Rapidement avant la pause, Simon.
La question de base, c'était est-ce qu'on n'est pas en train de voir une légende en décomposition? Moi, ce qui m'inquiète, au-delà du Milan AC, c'est la Serie A. Est-ce que la légende en décomposition
va continuer, la Serie A,
générale, la Serie A, parce que hormis les exploits de la Juventus, l'exploit furtif de l'an passé de la Roma, les clubs italiens, c'est plus trop ça.
Messieurs, vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On sera avec Guy Pina, président de Alstom. A de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de vos consultants. Je le rappelle, autour de la table pour m'accompagner durant une heure, il y a Yacine Bouali, Simon Balachef, Guillaume Ascari, sans oublier Mehdi Sefraoui et notre présidente Kamel Haït Kera. On rejoint de suite l'invité de ce soir, monsieur Guy Pina, président de Alstom pour Tennis International Management. Bonsoir Guy, comment allez-vous?
Bonsoir, comment
on dit,
salam alaikum.
Ah ben, salam alaikum, il n'y a pas de problème, voilà, c'est comme ça, en plus dans ce mois sacré de Ramadan.
Enchanté de vous connaître.
Ah ben, nous aussi, organisateur du circuit Tennis ATC sur 30 quartiers de Marseille et son agglomération, il s'agit d'un projet unique en France, monsieur Pina, avec l'objectif multiple d'organiser de l'animation sportive dans les quartiers, mais aussi permettre une mixité sociale et détecter des jeunes talents. Guy, vous qui permettez aux enfants tout simplement de découvrir le tennis, êtes-vous un fervent pratiquant de la petite balle jaune?
Oui, c'est parce que donc le circuit a été créé il y a 3 ans. Et donc l'idée, c'est effectivement de faire pratiquer le tennis à plusieurs enfants des quartiers de Marseille, notamment, avec l'idée de développer le projet sur d'autres communes régionales et maintenant nationales, puisqu'on a un petit qui est monté à Paris, là.
Oui, pour Roland-Garros.
Voilà, tout à fait. Un petit qu'on a repéré du quartier de Calisté, qui se prénomme Giovanni.
Giovanni.
Et, voilà, Giovanni, et donc il a été repéré, et donc la Fédération française de tennis, en la personne de monsieur le président de la Fédération, a invité Giovanni à Roland-Garros hier, et donc il a pu découvrir le tournoi, rencontrer des joueurs et des joueuses, et voilà, et donc c'est vrai que c'était une grosse opération unique et historique pour l'association.
Ouais. Justement, comment est née cette volonté de vulgariser la pratique de ce sport a priori élitiste quelquefois pour le grand public et aussi voilà de permettre à des jeunes garçons comme Giovanni de fouler la terre battue des internationaux de France du côté de la Porte d'Auteuil?
Ben, c'est parce que moi je suis en fait j'ai eu deux fonctions dans ma vie, c'est à la fois animateur et éducateur. Donc forcément j'ai œuvré dans les quartiers et puis aussi effectivement je suis un des premiers, je suis peut-être la première personne involontairement, certainement, c'est peut-être le destin qui a fait ça, à proposer le tennis dans les quartiers depuis très, ouais, très longtemps, pratiquement depuis 30 ans, quoi.
C'est vrai que... Ouais. Allez-y, poursuivez.
L'association, ben voilà, on a développé le truc.
Elle a une réaction avec Mehdi Sefraoui, oui, notre consultant.
Monsieur Pina, bonsoir. Salam alaikum. J'avais une question. Le Marseille, c'est plus une ville, une terre de foot, plus que de tennis. Comment vous faites pour amener les jeunes à pratiquer le tennis?
Eh bien oui, c'est ça l'incroyabilité, c'est que forcément j'interviens dans des quartiers comme Félicitat ou Calicité, qui sont des quartiers footballistiques. Eh bien, je peux vous montrer, j'ai dû vous envoyer quelques photos et quelques articles de journaux. Ben c'est incroyable, incroyable. Le tennis est déjà populaire de par le fait que les enfants, comme ils ne le pratiquent pas, si vous voulez, le fait que moi je viens avec mon matériel, eh bien il s'adonne au tennis. Et ça plaît beaucoup.
Kamel, une réaction avec M. Pina.
Oui, bonjour M. Pina. Moi, je voulais juste savoir, parce que c'est vrai que ce qui est bien avec le football, c'est en matière de logistique. Quoi. Je veux dire, pour jouer au football, on a besoin d'un ballon et pas d'un terrain de foot. Comment vous faites, vous, en termes logistiques, pour faire découvrir le tennis? Parce que ce qui est bien dans le tennis, c'est qu'il y ait vraiment des vrais cours de tennis, c'est qu'il y ait, comme vous dites, une mixité. Comment vous faites pour faire la mixité? Parce que si vous êtes dans un quartier, c'est toujours les mêmes jeunes. Est-ce que, juste, votre projet, il est... c'est pas que j'arrive pas à le comprendre, mais je m'interroge dessus, je voudrais en savoir plus.
Bien sûr. Le véritable pari que je m'étais donné moi, au début, c'était effectivement que des enfants des quartiers sud de Marseille et des quartiers nord puissent circuler dans les quartiers... à tour de rôle dans les tournois de quartier, et donc j'ai réussi effectivement à organiser et à mettre en place une véritable mixité sociale à travers le circuit tennis, qui est donc forcément le seul circuit de tennis de quartier qui existe en France. On a vraiment une originalité, et c'est pour ça que je compte effectivement sur des différentes interventions comme la vôtre pour faire connaître le circuit à d'autres communes qui pourraient être intéressés. Moi, je suis bien sûr ouvert à mettre en place le même type de projet sur différentes communes.
On termine avec Yacine Bouali, Monsieur Pina.
Donc, bonsoir, oui. Monsieur Pina. Moi, je vous poserai la question que Kamel vous a posée, mais différemment. Tout en sachant que le tennis, il vous a dit que le football, c'est plus facile de pratiquer. Le tennis nécessite beaucoup de moyens, surtout quand on connaît les prix des raquettes ou même des terrains, et quand on connaît un petit peu la ville de Marseille. Vous, comment vous arrivez à financer vos projets?
On a les mairies qui parlent, les ministères et donc bien sûr les mairies centrales, le conseil général et la région, mais qui aident la logistique des tournois. J'ai aussi des partenaires privés comme Haribo, comme Decathlon, comme maintenant Clique Sportfit de Paris, qui est un partenaire textile, ainsi qu'un autre aussi, une Camade, qui va nous aider également sur Marseille pour mettre en place des actions commerciales au niveau des gamins pour avoir des tenues, etc.
Longue vie à STM.
Complètement, la réussite du projet, c'est forcément de par, bien sûr, moi, en tant que personne, ma présence, mais surtout, on va avoir besoin maintenant des aides financières de la mairie, du conseil général, de l'État, parce que le projet devient, je vous dis, l'invitation du président de la fédération, c'est un signe véritable pour dire, voilà, ben, il va falloir aller encore plus loin et
on l'espère
dans ce type de projet.
On l'espère, Monsieur Pina. Longue vie à Astheim et aussi à toute cette envie, cet engouement que les gens ont pour votre magnifique événement, que ce soit sur l'agglomération de Marseille, mais aussi à travers la France.
Tout à fait.
Un grand plaisir.
À travers votre appel, j'espère que d'autres personnes,
mais bien sûr,
autres que Marseille, pourront nous appeler.
Peut-être un site internet à donner aux auditeurs de Beurre FM.
C'est le compte Facebook, circuit ATC Zep Tour, où là, bien sûr, les personnes peuvent se mettre en contact avec moi. Ou alors par téléphone directement, si je peux le donner en ligne.
Non, on ne pourra pas le donner en ligne, malheureusement. On ne pourra pas le donner en ligne, mais on fera suivre les informations directement. Voilà, vous inquiétez pas.
Il n'y a pas de problème.
Mais on le fera suivre sur notre fanpage et aussi sur le réseau Twitter. Vous inquiétez pas, Monsieur Pina. Un grand merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM.
Merci, Monsieur Pina.
Merci à vous et bonne destination et bonne fête de Ramadan.
Merci. C'est très sympa en ce mois sacré qu'est le Ramadan. Nous, on prend la direction du continent africain cette fois-ci.
Time Sport, la victoire.
Trois ans, la Coupe de la CAF, trois ans après sa défaite en finale de la Ligue des Champions de la CAF, le club égyptien du Zamalek a remporté dans la nuit de dimanche la Coupe de la CAF équivalent de la Ligue Europa en Afrique. Cette victoire est-elle le prélude à une CAN triomphante pour le pays hôte? Simon, on t'écoute.
Une CAN triomphante pour le pays hôte. Ah,
l'Égypte reçoit l'Égypte. Mohamed Salah.
De toute façon, un immense pays du foot en Afrique et d'ailleurs de manière mondiale. C'est passé pas loin. Pour la renaissance de Berkane, c'est dommage.
Ah oui, le club marocain, les Lions de la place.
Voilà, on peut se demander si l'expérience a pas joué, parce que quand même Berkane, faut le rappeler, c'était un petit poussé dans cette à l'échelle continentale, c'était un petit poussé face à un Zamalek qui compte 5 Ligues des Champions, une Coupe de la CAF. Enfin voilà, c'est un gros. C'est pas le plus gros Égyptien, il y a le Al Ahly, mais voilà, c'est un des gros continentaux, donc c'était un peu difficile pour Berkane qui a réussi à les emmener au tir au but. On peut se demander s'il a l'expérience du Zamalek a pas fait le reste. Mais voilà, moi je suis content quand même pour un club comme Berkane et pour ses supporters qui se souviendront sûrement longtemps cette demi-finale contre le club sportif sfaxien, perdu 2-0 à l'aller, remporté 3-0 au retour. Ça, c'est le genre de truc qui pour le coup te crée une histoire continentale. Et bah, ce club-là, on avait besoin et il l'a créé. C'est génial.
Et génial et pertinent ce que tu viens de dire. C'est Simon Balachef, on le rappelle, amoureux du football africain, comme Yacine Bouali et aussi de la Copa América qui arrive à grands pas à partir du 16 juin. On aura des spéciales aussi dans cette émission qui est Tamsport. Yacine, la coupe de la CAF, oui, avec toi, de terminer à Marseille.
La victoire, moi j'ai vu la télé, hein, j'ai regardé les deux matchs, j'ai misé une pièce sur...
tu as misé une pièce toi.
Parce que Berkane, c'est comme Simon vient de le signaler, c'est un petit poussé, même dans le championnat du Maroc. Ils le doivent à leur président, qui a quand même une grande influence actuellement, de partager. Ce n'est plus le grand Zamalek qui a gagné les cinq ligues du champion, mais ça n'empêche que quand on voit le nombre d'internationaux soit égyptiens ou africains qui sont dans cette composante de Zamalek, je pense que c'est tout à fait logique de remporter cette Coupe d'Afrique.
Alors,
on va dire des vainqueurs de coupe, mais Berkane n'a pas démérité.
On termine avec toi, Mehdi, concernant le football africain.
Juste pour répondre à ta question de base, je pense que ça va ouvrir l'été égyptien. Parce que la CAN, c'est chez eux.
C'est ça, à partir du 21
finale,
juin.
Il y a deux ans, finale perdue contre le Cameroun. Depuis 2010, ils n'ont pas gagné. 2006, 2008, 2010, c'est resté sur trois victoires consécutives. Je pense qu'on aimerait que l'Algérie la soulève. Mais
L'Algérie pour Mehdi, c'est Fraoui, pourquoi pas. Et le Sénégal pour Mamadou. Ouais, lui, il aimerait. Mamadou Lamine Mané aimerait aussi le Sénégal. Mais nous, on aimerait voir encore de magnifiques rencontres dans cette Ligue en Conforama, Kamel. Villas-Boas à l'Olympique de Marseille. Guillaume Ascari s'est fait. L'OM s'est mis d'accord avec le coach qui débarque sur la cité, sur la Canebière, et sa cité phocéenne, en espérant y conquérir le cœur des amoureux du ballon rond. Kamel.
Oui, le spécial tout, comme on l'appelait. Vous vous rappelez?
Il y a une époque.
On l'appelait le spécial tout, tout le monde l'en sait.
À défaut d'avoir le spécial one, vous avez le spécial tout.
Ouais, voilà, c'est ça. Le tac, là. Souvent, enfin, la querelle parisienne, on m'a dit.
Pas de langue de bois.
Mais bon, ouais, de toute façon, c'est comme
on dit. Villas-Boas.
Moi, Villas-Boas, sincèrement.
Ça plaît pas à Simon, je crois.
Moi, ça. Non, mais après, chacun son avis. Moi, je suis un supporter marseillais à 800%. Mais Villas-Boas, pour moi, c'est. C'est encore, voilà, c'est une idée saugrenue.
En classe internationale, non ?
Non, mais c'est une idée saugrenue de la direction marseillaise. Comme ils ont fait pas mal de choses, comme on avait fait à un moment donné, Michel, c'était beau, tu vois, c'était nouveau,
exactement,
il y avait Journal de Madrid.
Exactement,
c'est toujours ce qui vient.
Encore une perte
c'est
de temps à Marseille.
En France, l'herbe ailleurs est toujours plus verte. Maintenant, je vous dis, et en plus, on a parlé pendant deux ans, je terminerai après, sur les salaires, on va lui donner 600 000 euros par mois.
Eh oui, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, je dirais, à un moment
avec Carvalho
donné,
dans les bagages.
Ouais, Carvalho, valises, car, tout ça. Donc, ouais. Je dirais, à un moment donné, elle est, moi, juste, s'il vous plaît, politique, sportive, cohérente. Mais la Villas-Boas,
merci,
ça va durer un an.
Kamel.
Il va prendre son chèque, il va partir.
Simon,
Marseille, ça va être la Villas-Boas. Même.
Eh ben moi, je suis pas si sûr que
un
ça.
Aussi
je
avec
demande
toi.
Un droit de réponse parce que je suis absolument pas content de cette arrivée.
Je sais bien.
Moi, je pense que ça peut être un très bon personnage.
Pas mal pour la Marseille,
pour l'Olympique de Marseille. Il a fait du très bon travail avec le Zénith. Il a fait du très bon travail en Chine. Ça reste un bon professionnel.
Guillaume.
Pas forcément d'envergure, Ligue des Champions. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que l'OM en est là?
Guillaume.
C'est ça la question surtout.
Ok, il aura un dur travail et ça sera pas comme à Shanghai puisqu'il vient de Shanghai, l'entraîneur portugais et il aura les supporters derrière lui.
Allez, vous restez avec nous, on parlera de première ligue, à de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Eh oui, de retour, toujours en live sur l'antenne de Beurre FM, 18h-19h, c'est l'heure de Time Sport du lundi au vendredi. On les écoute du côté d'Aix-Marseille, le 92.6 et aussi des versions avec le 89.1, sans oublier 3, le 94.3. On prend directement les terrains de terre battue de la Porte d'Auteuil.
Time Sport, le mode pressing.
Et Djokovic et aussi Rafael Nadal à Roland-Garros, comment presque chaque année depuis 2011. Et oui, Guillaume, Novak et aussi Rafael se présentent en grand favori de ce grand chelem en France. Mais le retour inespéré de Roger Federer et l'ombre portée de quelques rivaux potentiels ajoutent du piment au tournoi pour cette édition 2019. Qui est le plus favori à gagner cette édition? Mehdi, c'est Fraoui, on t'écoute.
Très rapidement, le favori, bien sûr, Rafael Nadal.
Eh oui.
Mais j'ai mis un petit doute parce qu'il a eu une préparation sur terre battue inhabituelle. Il a perdu Barcelone, il a perdu Monte Carlo. Peut-être il voulait se préserver pour Roland Garros. Après, il y a Djokovic numéro 1. Mais il faut pas oublier Roger Federer parce que
Federer,
on parle de l'âge. C'est une surface lente. Peut-être physiquement, ça va être difficile en des matchs en 5 manches. Mais attention, 10 ans qu'il a gagné Roland Garros, ça peut être le grand retour. Et depuis 2015, il n'avait pas joué. Sinon, un outsider, pas très outsider, un petit jeune team.
Ouais.
Team très fort sur.
On regardera ça de près.
Et il a battu Nadal 3 fois sur terre battue les 3 dernières années.
Toutes les informations concernant les internationaux de France est promis sur la fanpage Facebook, aussi sur le site internet beurrefm.net, sans oublier le hashtag Tamsport sur la twittosphère. On prend. Alors, on termine avec la Tamise et son championnat, la première ligue.
Time Sport. Le duel. Le duel. Le duel.
L'accession à la première ligue, la victoire à 200 millions d'euros d'Aston Villa à la finale des playoffs d'accession à ce championnat anglais remporté 2-1 par Aston Villa aux dépens de Derby County. Lundi, à Wembley, dans la capitale anglaise, a été présenté comme le match le plus cher de l'histoire du football en raison des énormes droits TV promis aux vainqueurs. 200 millions d'euros, l'énormité de ces droits TV est-elle justifiée selon vous, Guillaume, et aussi Simon, on vous écoute.
C'est pas justifié. Il y a rien qui justifie 200 millions d'euros pour un match de football. Clairement, on s'éloigne de plus.
Il y a même très
plus.
Peu de choses qui justifient 200 millions d'euros.
Il y a très peu de choses. Merci. C'est très juste. Il y a très peu de choses qui justifient 200 millions d'euros et on est rentré encore plus dans cette sphère de qui va mettre le plus. Sur un match de foot. Et moi, je trouve personnellement, et je l'ai déjà dit sur Beurre FM et sur Time Sport, que ça gâche un peu le football, tout ça.
Simon,
je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme tu l'as dit, il y a très peu de choses qui justifient 200 millions d'euros. On en a parlé quand on a parlé sponsoring sur ce plateau, quand on parle des salaires régulièrement. Ouais. On en parlait en off avec Yacine. On ne peut, je ne me lasserai jamais de rappeler que les chiffres que l'on voit dans le football actuellement sont absurdes. Et non, c'est une bulle qui enfle et qui un jour éclatera.
Allez, il est un peu tristouné. Rapide. Allez, un petit mot concernant la première ligue.
Il avait préparé pas mal.
Et pourquoi ?
C'est juste que c'est de l'argent qui a été investi par les annonceurs. Comme on dit, la première ligue, ils vont toucher 2,80 milliards d'euros. Le dernier de la première ligue va toucher deux fois plus que le PSG en droit TV. Mais il suffit juste d'avoir
des bons joueurs. Et encore, Kamel.
C'est grâce au PSG que les droits TV en France.
Merci le Paris Saint-Germain, voilà. Et c'est le mot de la fin.
Bilal, on parle de 200 millions d'euros, mais si se maintiennent, ça pourra monter jusqu'à 340
millions
d'euros.
Merci à toute l'équipe et rendez-vous à partir de demain. On n'a plus le temps, Yacine. Désolé, demain, 18h-19h.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.